Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler temps qui court. Tous les soirs, c'est une conversation qui dure une heure avec un ou une artiste ce soir, Anne Kefelek.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parler temps qui court,
Marie Richeux avec Anne Kefelek.
L'harmonie mozartienne, a priori si équilibrée, danse au-dessus de l'abîme, ne s'interdit nulle fantaisie. Cette musique à tire-d'aile ignore la loi de la pesanteur. Sa seule loi, c'est la sienne. La folle liberté de Mozart est la juste liberté puisqu'elle lui obéit. Et l'interprète a droit à boire la vie dans le cristal et à chanter aussi « Viva la liberta ». C'est pourquoi je me suis autorisée à inverser ici l'ordre de ces trois sonates. Prendre le chemin du retour permet de voir différemment le paysage et celui qui signait certaines lettres Trazom me pardonnera. Qu'on le joue ou qu'on l'écoute, comment ne pas rejoindre l'émerveillement éperdu de reconnaissance de Clara Schumann, écrivant à Brahms, après qu'elle ait interprété deux concertos de Mozart, « Nous voudrions embrasser le monde entier dans notre joie qu'ait existé un tel homme ». Ce sont vos mots et c'est votre joie, Anne Kefelek, tirée du texte du livret de votre dernier disque. On y entend trois sonates pour piano de Mozart dans un chemin inverse à celui de leur composition. Il est sorti chez Mirare en septembre dernier. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, on va annoncer quelques dates, quelques rendez-vous pour 2020. Le 7 janvier prochain à 12h30 à la salle Gaveau à Paris, un rendez-vous avec Emma la Clown. Fin janvier, ce sera la folle journée de Nantes. Février, début février dans la région nantaise et le 23 février à la Scala à Paris. Ça m'aura un peu curieux ce rendez-vous avec Emma la Clown à la salle Gaveau. Qu'est-ce que vous allez faire avec Emma la Clown?
C'est un peu une surprise. Nous n'avons pas encore mis au point la chose. Et elle est pleine de fantaisie et de vie naturellement et de poésie. Elle aussi, elle est un clown, en fait, par rapport à ce que vous, le fait que nous avons évoqué Mozart. Il aurait aimé aussi certainement son personnage. Car c'était vraiment un homme qui aimait rire et qui aimait faire des farces. Et elle est très sensible à la musique. Elle en a fait elle-même dans sa jeunesse. Je suppose qu'elle continue même pour son propre plaisir, et elle a le désir d'ouvrir des portes, finalement d'attaquer par un angle différents domaines, comme la science aussi, puisqu'elle avait invité récemment Étienne Klein, par exemple. Elle a aussi invité Juliette, c'était la fois précédente.
Musicienne pour Juliette et physicien pour Étienne Klein.
Voilà, et c'est une démarche très très originale, et qui, dans le cadre de la salle Gaveau, il y a une forme d'intimité qui se crée, surtout à 7h du déjeuner, qui n'est pas une heure vraiment tellement habituelle pour la salle Gaveau, qui n'est pas non plus habituée à rencontrer un clown. Donc, ces petits mélanges comme ça, un peu contrastés, inattendus, déjà créent une atmosphère qui fait qu'il y a un contact avec le public et qui est différent, qui est très joyeux et très proche, très complice.
Donc c'est un rendez-vous le 7 janvier à 12h30 pour les curieux. On verra la surprise que vous nous préparez toutes les deux. Je parlais d'un chemin comme ça à rebours, un chemin du retour. C'est vous qui l'écrivez aussi, oui. Anne Kefelek, parce que ce sont des sonates de 1783. Mais pourquoi cet ordre-là dans le disque?
Ça m'est venu dans un deuxième temps. Au départ, j'aime infiniment ces trois sonates et je trouvais aussi très intéressant de les enregistrer puisqu'elles ont été composées à la même époque, de les rassembler dans un enregistrement, parce que de la part d'un compositeur, Beethoven fait ça aussi, quand de temps en temps il y a un enchaînement d'une série de pièces qui dans le temps se succèdent et qui sont très variées les unes par rapport aux autres. Et selon d'ailleurs mon cher Alfred Brendel, il dit, et il a certainement raison, que c'est une manière pour le compositeur de montrer sa capacité à se renouveler dans un temps très court. Je peux faire ça et je peux aussi faire ci. Et puis voilà, je peux encore vous présenter ça quasiment comme un restaurateur qui présente son menu avec des plats très différents et son talent à chaque fois sous un jour nouveau. Donc quelqu'un qui est capable de donner autre chose et qui est riche. Donc de toute façon, ça m'intéressait beaucoup de les rassembler toutes les trois. Et puis dans un deuxième temps, je me suis dit, dans le fond, j'ai suivi mon instinct, j'avais plus envie, même dans le cadre d'un concert, de commencer par la dernière, la 333, la si bémol majeure. J'avais la sensation qu'il y avait une forme d'embarquement dans la musique qui se faisait d'une façon plus mystérieuse et plus invitante, un peu comme un bateau qui prend la mer tout à coup. Et je le sentais davantage que de commencer par la 331, qui était donc, qui aurait dû être la première. Et en plus que la marche turque, qui est vraiment un moment de farce et burlesque, et qui est pour moi l'évocation du personnage de Monsieur Jourdain, là, dans Le Bourgeois Gentilhomme, parce que Mozart, certainement, enfin, je sais, il avait lu Molière, puisque le père de sa femme, Constance Weber, je lui avais offert les œuvres complètes de Molière lorsqu'il était passé par Mannheim lors de son deuxième séjour à Paris. En tout cas, il était parti, il avait quitté la famille Weber avec les œuvres complètes de Molière. Donc, la marche turque, le Mamamouchi, le grand turc, d'emblée, si je puis dire, dans l'entrée de ce disque, je me disais, ce sera trop tôt pour se mettre à rire déjà. Donc, je trouvais bien de terminer par l'éclat de rire à la fin du disque, parce que j'aime beaucoup l'idée du chemin, justement, des œuvres les unes par rapport aux autres. Et c'est pas du tout un chemin chronologique. Ça m'arrive souvent dans un concert de mélanger les nocturnes de Chopin et les chorales de Bach, parce que il y a des correspondances dans ce temps de la musique qui est un autre que celui des pendules et des calendriers. Et il y a des chemins, des fils qu'on peut suivre et qui, justement, donnent un autre regard. Tout à coup, on entend d'une autre oreille si on part d'un autre point. Après, ça m'a paru tout à fait licite de faire ça, et même, je pense qu'il aurait aimé. Voilà, je me suis permis de lui demander son avis, il était d'accord.
Il aurait aimé ce chemin à rebours et les rencontres avec les clowns. C'est intéressant que vous utilisiez comme ça ce mot-là du chemin qui évoque une manière d'arpenter les paysages. Le paysage, c'est aussi un mot que vous utilisez dans votre texte, Anne Kefelek. Et vous parlez des abîmes, qui est un mot peut-être comme ça moins engageant, moins facile à vivre et pourtant extrêmement signifiant pour la musique que vous jouez. Qu'est-ce que vous entendez lorsque vous dites qu'il y a quelque chose qui danse au-dessus de l'abîme dans cette musique-là?
C'est comme disait Claudel à propos de sa sœur Camille, un mystère en pleine lumière. Et vraiment, ces mots s'appliquent aussi évidemment à Mozart. Cet homme connaissait tout de la condition humaine, de la nature humaine, puisqu'il était un génie. Tous les génies ont en eux l'entière humanité. Et donc, évidemment, il serait totalement, enfin, faux. Il y a certaines personnes qui peuvent le percevoir comme léger, voire peut-être trop galant et à la limite un peu superficiel, manquant de profondeur. Alors qu'en fait, dans cette musique, même dans les œuvres qui ne sont pas d'emblée tragiques, bien entendu, le Requiem ou les deux grands concertos, ut mineur et mineur, évidemment, ce sont des œuvres de caractère immédiatement dramatique. Mais hormis, en dehors de ces caractères vraiment accusés, affirmés, il y a dans les œuvres qui semblent de charme, et c'est ça son génie, on ne sait pas pourquoi de temps en temps il va y avoir un thème qui vous perce le cœur, et on ne sait pas à quoi ça tient. Ça, c'est la magie de Mozart. Et donc, il y a derrière des perspectives infinies, et pour moi, oui, des abîmes qui sont les abîmes de l'existence, c'est-à-dire des abîmes pas forcément dans lesquels on va se perdre, mais ce que j'aime dans la clarté de cette musique, j'y pense de plus en plus, c'est quand Marguerite Yourcenar a été intronisée à l'Académie française, elle a parlé de son moi incertain et flottant. Je pense que c'est le cas de quasiment tout le monde, nos mois sont incertains et flottants, et que la musique a la capacité, il y a un mélange à la fois de flottement aussi, de captation du flottement, mais également de précision. Parfois, il me semble que la musique dit plus précisément la condition humaine que les mots. Là, je m'en...
Oh, mais on y reviendra, ne vous inquiétez pas.
On y reviendra
parce que c'est un chemin que vous empruntez souvent pour le discuter, pour l'expérimenter, Anne Kefelec. Mais avant qu'on écoute un petit peu de musique, justement, puisque vous faites référence au mot de Yourcenar, à l'idée d'un moi incertain et flottant, est-ce que l'abîme n'est pas la liberté dont vous parlez à propos de Mozart? Vous écrivez que sa loi est juste parce qu'elle est à lui, d'une certaine manière. Enfin, oui, c'est une liberté aussi de la singularité que j'entends, moi, dans vos mots.
Oui. Oui, mais je pense que tout artiste l'est. Tout artiste est singulier. Et c'est aussi leur force, enfin. Leur liberté et leur solitude également, tout ça est lié. Et par ailleurs, la façon dont Mozart compose obéit aussi à des règles strictes sur le plan de la composition. C'est quelqu'un qui a énormément étudié, énormément travaillé. C'est donc, d'une certaine façon, c'est une liberté qui s'est forgée à travers des contraintes, qui, au fond, c'est les libertés les plus profondes, intenses, véridiques, et ce sont celles-là, parce que la liberté qui consisterait à dire on fait ce qu'on veut, n'importe comment, c'est pas de la liberté. Là, il y a une détermination, un choix et un matériau qu'il construit par lui-même tout en respectant aussi des règles plus classiques, mais à travers, on sait bien, le classicisme, il y a aussi l'affirmation de liberté dès qu'il s'agit de ces génies, tous, tant qu'ils sont. D'ailleurs, les écrivains, c'est pareil. Racine, quand il écrit en alexandrin, quelle loi contraignante, avoir chaque fois les rimes, les pieds, il faut que ça casse. Néanmoins, il y a aussi une liberté incroyable qui peut s'exprimer et qui est d'autant plus concentrée, je dirais, pour moi.
Est-ce qu'elle rencontre la vôtre, cette liberté-là? Est-ce qu'il faut qu'elle rencontre la vôtre pour que quelque chose arrive?
Je suppose que c'est ce qui se passe. Et qu'il me la donne aussi. Et ça, c'est très mystérieux, parce que c'est de l'ordre, comme disait Suran, on peut pas dire avec des mots les sentiments qui sont d'ordre musical, mais c'est vrai qu'au, par exemple, lors de concerts, on a la sensation parfois que quelque chose de profond de soi vous est donné à travers la musique et que c'est dit, quelque chose de soi est dit vraiment et que ça coïncide parfaitement. Et quand, alors je sais pas si c'est la liberté que ça retrouve peut-être, mais en tous les cas, c'est son moi profond et c'est en même temps le moi des auditeurs dans les salles de concert.
Mais ça fait ce chemin-là, ça vous est donné. Il y a quelque chose de vous qui vous arrive par la musique.
Qui nous est rendu aussi, peut-être révélé, rendu. Et notamment, enfin, je suis de plus en plus touchée, fascinée par le phénomène de ce qui se passe pour un musicien. Alors, le fait d'être écouté par une salle, le silence d'une salle qui écoute n'est pas le silence d'une salle vide, naturellement. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'on sent ? Quelles ondes passent ? Et pourquoi est-ce que ça nous porte à ce point ? Pourquoi est-ce que c'est à la fois un point de départ, un appui et un retour ? Il y a une circulation et une œuvre. Pour moi, c'est vraiment une œuvre collective, un concert. Et maintenant, je remercie de plus en plus le public quand il a bien participé. Parce que ils se rendent pas compte, mais c'est un cadeau incroyable. Et pourquoi est-ce que cette écoute déclenche ça et ouvre en soi des portes et des espaces et des abîmes, là, on peut dire, et en effet, à ce moment-là, on est au danse aussi, hein, on est quand même hors sol, et peut-être eux aussi en même temps, c'est un cadeau extraordinaire.
Et c'est un cadeau, alors je retarde un peu ce moment où on va écouter, mais c'est un cadeau qui est fait à la musique, qui est fait à vous, qui est fait à celles et ceux qui écoutent. C'est un cadeau qui va vers qui ?
Qui peut répondre à une telle question ? Ce qui est étonnant, évidemment, dans une œuvre musicale par rapport à un tableau ou une sculpture, c'est qu'elle est en permanence nouvelle, métamorphose, moment qui passe, qui ne reviendra pas. On peut rejouer une pièce, mais on ne peut pas la rejouer de la même manière, jamais. Donc, il y a ce temps d'un autre ordre qui est là. Et je me disais récemment que sans la finitude, nous n'aurions pas l'art, nous n'aurions pas évidemment l'art, mais nous n'aurions pas la musique, on n'en aurait pas besoin, on n'aurait pas de mémoire, et on perdrait infiniment. Donc peut-être qu'il y a ce temps de plus, ce temps autre qui est un temps d'un autre ordre, mais qui est extraordinairement mystérieux et qui était également, c'est ce qui est étonnant comme sensation parfois, c'est un arrêt du temps, un arrêt de l'autre temps, du temps de la journée. La musique peut donner tout à coup le sentiment de l'éternité et plus que peut-être, pour moi en tout cas, n'importe quel autre art, alors qu'elle est éphémère et qu'elle est fugace.
Bon. Elle est quand même de temps en temps enregistrée. On va écouter celle que vous appelez la 333, donc sonate pour piano, numéro 13 en si bémol majeur. C'est le premier mouvement, l'allegro.
Thank you.
fait la dame de radio, Anne Kefelec.
On laisse Mozart se dérouler comme ça, dans le silence. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'esprit de ce mouvement, qui est, dont on ne sait pas, et moi-même je ne sais pas quand je le joue, vers où il m'embarque. Est-ce que c'est vers une forme de mélancolie, de légèreté, d'insouciance, de joie, d'allégresse, mais et je pense qu'il y a une ambiguïté vraiment dans le caractère en particulier de cette sonate, qui est proche de celle de Schubert parfois, où on ne sait pas pourquoi la tonalité si bémol majeur est très lumineuse et devrait et rayonnante, mais ce rayonnement peut vous faire venir les larmes aux yeux.
D'ailleurs, c'est intéressant, vous utilisez ce mot-là à plusieurs reprises, à la fois quand le micro était fermé et que vous cherchiez comme ça avec votre tête et vos bras un moment pour revenir et faire signe à Guillaume Ledieu. Mais en même temps, ce mot-là, caractère, vous disiez, quel est le caractère de cela? En désignant des petits moments comme ça.
Oui.
Vous disiez, mais au fond, quel est le caractère de cela? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour aussi la personne qui pense et joue la musique, cette personne que vous êtes, Anne Kefelec? Quel est le caractère de cela?
C'est une notion qui pour moi est très importante en musique. Et alors, en particulier dans la musique de Mozart, il y a vraiment l'opéra qui est là. Et il y a des personnages, il y a des situations, il y a des conversations, il y a des échanges et des ruptures, il y a tous les états. Enfin, vraiment, Mozart, c'est le grand spécialiste des états amoureux. Il les connaît comme personne. Et c'est vrai que je ne peux pas le jouer sans avoir en tête les opéras spécifiques, les personnages, et Suzanne, et la comtesse, et Figaro. Ils sont dans mon imaginaire.
Mais parce que quoi? Sans les avoir en tête? Parce que c'est son monde.
C'est parce que, à partir de son monde, c'est le mien. Enfin, c'est la vie. C'est vraiment je fais encore allusion à Brendel qui dit que le pianiste doit être plusieurs. Alors, le pianiste est plusieurs aussi parce qu'il a, à travers ce clavier incroyable qui est le territoire des pianistes, donc l'extrême grave à l'extrême aigu et qui permet à la fois l'harmonie et la mélodie, donc le vertical et l'horizontal. Le piano, c'est un orchestre en miniature, c'est bien pour ça qu'il y a tant de richesses qui ont été composées pour lui. Et donc, nous pouvons et nous devons même, en tant que pianiste, imaginer des timbres différents, même des instruments à vent, des entrées, des intrications vraiment entre, en effet, différentes voix. Et chaque voix appartient peut-être à, en effet, un personnage lequel a un caractère, peut-être qu'à un moi incertain et flottant lui aussi, mais enfin néanmoins ce mot de caractère pour moi il est très signifiant, il est fort, et c'est la musique qui, je vous parlais de la précision tout à l'heure, mais c'est la musique qui parfois nous le précise justement, et dans l'instant, parce que ça varie aussi selon les moments où on joue soi-même, on va être emmené peut-être vers une perception d'un caractère un peu différent, c'est vrai. Mais c'était aussi une notion qui était très chère à Cortot, qui était ce grand pianiste français formée par son assistante, et elle revenait tout le temps sur cette notion-là. Et aussi, en effet, à nouveau, j'en reparle.
Sur la notion de caractère.
Brendel. Oui, la notion de caractère, absolument. Oui, parce que ça induit aussi des couleurs sonores à chercher. Au fond, la musique est aussi, parfois ça chante et parfois ça parle. Ça peut être les deux en même temps. Vous pouvez faire parler le chanteur. Mais d'autres fois, il y a vraiment une dissociation. Il y a simplement la ligne, la beauté de la ligne mélodique qui est pur chant, sans mots, et comme des vocalises, et d'autres fois, il y a vraiment un texte qui est dit aussi, dans l'opéra c'est le cas, et quand c'est merveilleux Da Ponte, là, c'est le librettiste de Mozart qui prend la plume, là ça précise encore évidemment le caractère d'une situation et des personnages.
Mais justement, quand vous dites Anne Kefelec, puisqu'il y a Mozart, il y a l'opéra, et moi je vous dis c'est son monde, et vous dites oui, mais par la musique ça devient mon monde. monde, ça veut dire qu'il ne vous suffirait pas à vous d'avoir en vous l'humanité, d'avoir en vous l'amour, la finitude des mois incertains et flottants. Il vous faut aussi, pour interpréter ces sonates, avoir en vous quelque chose de la connaissance de ce monde de Mozart, mais aussi de l'avoir écouté, de l'avoir étudié. C'est nécessaire pour jouer ces sonates-là.
Je vois ce que vous voulez dire.
C'est une question.
Oui, mais ce n'est pas... je pense vraiment qu'en profondeur, la musique est liée, en effet, à notre humanité, mais que pour un interprète, l'imaginaire... Alors, il est toujours délicat d'avoir des métaphores trop, justement... trop précise là pour le coup, parce que la musique va au-delà, vraiment. Mais dans l'imaginaire, on peut, à partir d'images, soi-même aller plus loin que l'image, la dépasser. Je pense que de toute façon, la musique dépasse ça et entre dans une autre temporalité, entre dans une autre perception et après, on essaye de mettre des mots, mais pour peut-être, d'ailleurs c'est un peu un leurre, on essaie de la rapprocher de soi avec des mots, parce qu'on essaye de se raconter ce qu'elle nous dit, mais on peut la laisser aller et être emmenée. Par exemple, il se trouve, je peux vous dire ce que j'ai ressenti il y a deux jours en jouant la dernière sonate de Beethoven, opus 11, où là, c'est vraiment, pour le coup, abîme et sommet, comme une traversée métaphysique d'une spiritualité absolument inouïe au sens propre. Enfin, on est dans l'inouï. Et il y a par ailleurs une sorte d'évidence aussi qui est donnée à ce moment-là. Alors, mettre des mots là-dessus, sur le caractère d'une telle pièce... qui va si loin, si haut, qui vous emporte, qui vous saisit. Et quand je joue ça et que je suis dans un bon moment, parce que parfois on rate le rendez-vous aussi, c'est comme ça, c'est pas toujours donné, mais quand on est dans un bon moment, organiquement, on est pris des pieds à la tête, littéralement, même physiquement, j'ai de la peine à me lever, par exemple, après avoir joué cette sonate, alors qu'elle n'est pas, c'est pas une œuvre athlétique, c'est pas ça, mais elle vous saisit tellement en profondeur, et là on est peut-être au-delà alors du caractère, de bien sûr, parce qu'il y a un moment où c'est la musique qui vous prend et on la suit et on est habité par ça, et ça c'est aussi un cadeau vraiment extraordinaire. Là ça fait partie de ces œuvres où on se dit bon ben, peut-être je peux quitter cette planète avec au moins... J'aurais fait ça, j'ai travaillé des années, mon instrument, et j'ai pu ouvrir cette porte. J'ai pu savoir ce que c'était cette clé. Là, ça, maintenant, il faudrait que je me taise, parce que je peux pas aller plus loin dans l'expression de ce que je ressens, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on est dépassé, vraiment.
Quelle chance.
Bon, c'est vous vrai, en avez parlé.
Oui, privilège. Franchement, de se dire ce que vous dites là, ça me semble être une chance inouïe.
Ah oui, mais ça l'est.
Je peux partir en ayant ouvert cette porte-là. C'est presque très physique comme
image. Non, mais c'est vrai que la musique, pour ça, je me dis, plus je vais, je me dis, quel cadeau, mais quel privilège d'avoir, comme Michaud dit ça, j'écris pour me parcourir, mais là, j'ai pu me parcourir cette portion d'humanité qui est la mienne à travers ça, et c'est vrai, c'est cadeau.
Bon, vous en avez parlé plusieurs fois, Alfred Brendel, il arrive avec sa voix, c'est une archive de 1994, France Musique, dans l'émission Mesure pour Mesure.
Je pense qu'il est très intéressant de parler de musique. C'est très difficile. Et c'est généralement fait par des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. Alors si pour une fois, si un interprète a beaucoup lu, qu'il aime écrire, qu'il aime penser, qu'il aime sentir ce qu'il fait, pourquoi n'essaierait-il pas de le traduire avec des mots? Cela n'a pas été fait souvent. Il n'y a pas beaucoup d'interprètes qui prennent la plume. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai essayé de le faire. Je suis également convaincue que certaines choses peuvent être dites sans complications superflues, sans jargon musicologique. C'est aussi ce que j'essaye de faire. Bien sûr, la raison la plus importante est peut-être que je veux clarifier ma propre pensée. Je veux comprendre ce qu'il y a dans l'œuvre, ce que m'évoquent certains passages. Et si je l'écris, si je le ressors de ma mémoire, alors peut-être que certaines choses vont s'éclairer. J'éprouve aussi le besoin de regarder. J'ai fait de la peinture dans mes jeunes années, j'ai cessé de le faire, mais j'ai toujours besoin d'aller à des expositions, j'ai besoin d'architecture. Quel est le lien direct avec la musique? Je l'ignore. Cela, sans aucun doute, aiguise ma conscience des choses. Et quand je joue, je veux être conscient à un certain degré du caractère de l'œuvre. Et pour être capable de cela, je dois avoir des mots à ma disposition ou des sensations. Et pour cela, les autres arts peuvent être d'une grande utilité.
Et le revoilà, le mot caractère, cette fois dans la voix de celui que vous avez plusieurs fois cité, Alfred Brendel, dans une archive de 1994. À la fois ce mot caractère et ces mots clarté et conscience. Il précise conscience à un certain degré. Déjà, peut-être quelques mots, s'il vous plaît, sur Alfred Brendel, votre lien à lui, Anne Kefelek.
J'ai eu la chance de le rencontrer quand j'avais 20 ans et lui, à ce moment-là, n'était pas la star qu'il est devenu par la suite. Donc c'était un moment opportun pour le rencontrer. Il y avait une forme de disponibilité de sa part et il m'a manifesté avec beaucoup de bienveillance et de générosité de l'intérêt. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai étudié avec lui régulièrement le grand répertoire austro-allemand, je ne sais pas comment dire, Schubert, Beethoven, Mozart, et des œuvres signifiantes, le quatrième concerto de Beethoven, les grandes sonates posthumes de Schubert. Et ce que j'aime chez cet homme, et ce que nous venons d'entendre le montre aussi, cette exigence qu'il a envers lui-même, ce désir de comprendre, il y a à la fois l'intellect qui est en marche non-stop chez lui, une grande culture, une réflexion et néanmoins une passion intense, profonde quand il jouait, puisqu'il ne joue plus maintenant, mais il sait toujours écouter de la même manière. J'ai écouté de la musique avec lui, je peux vous dire qu'il a une façon d'écouter qui engage tout son être. Et quand je l'entendais en concert, j'avais la sensation que c'était comme une espèce de main qui vous agrippait et qui exigeait l'écoute, et une écoute active, il ne fallait pas lâcher. Il y avait « es muss sein », un peu comme dit Beethoven, ça doit être, attention, quelque chose d'important va se passer, que nous devons vivre ensemble. Il y avait le côté, une espèce d'injonction, si vous voulez, qui était presque un peu fatigante dans l'écoute. On ne pouvait pas vraiment se laisser aller quand Alfred Brendel donnait un récital. Parfois, on laisse la pensée divaguer.
Mais c'est marrant, on pourrait presque prendre ces mots-là, « es muss sein », en se disant, bon, de toute façon, je peux de toute façon me laisser aller puisque ça doit arriver. Alors, ça va arriver. On disait, il faut être convoqué pour que cela arrive, c'est ça?
Parfois, en effet, c'est donné et on n'a rien. C'est pas de l'ordre de la volonté, évidemment, à ce moment-là, mais c'est quand même une espèce d'injonction parce qu'on est en face de quelqu'un on sent bien chez lui, c'est encore une fois cette exigence profonde envers lui-même, cette quête sans fin d'une forme de vérité de l'œuvre, sachant bien qu'il n'y a pas de vérité absolue en musique, naturellement, mais il y a des approches tout de même et il y a des visages qui sont vrais dans certaines interprétations et on le sent quand c'est juste, peut-être plus que vrai, mais on sent aussi quand c'est faux. Enfin, moi, il y a des grands musiciens très habiles et virtuoses et tout ce qu'on veut, ou des moments où on sent que même pour soi-même, on sent qu'on n'est pas juste. C'est comme pour la photo, vous savez, c'est pas au point là. On est dans un peu dévié et Et donc, ça, c'est vrai que c'est une sensation qui pour moi, parle, enfin. Et lui, je pense qu'il m'a apporté, alors, en dehors d'une sorte de façon de travailler ce répertoire-là, et puis une écoute différente, l'exigence de la recherche du son aussi, de la palette, des timbres. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on apprend beaucoup avec lui. Et puis, il part de l'architecture, justement, la structure, la construction d'une œuvre dans son entier, à la fois l'importance des détails est néanmoins toujours prise dans une plus grande dimension. Et quand il jouait par exemple les grandes sonates de Schubert, qui sous certains doigts peuvent donner l'impression d'être interminables, en fait avec lui, on arrivait à la fin et on se disait presque déjà, alors parce que il avait réussi à faire vraiment tenir qu'il y a une cohérence dans l'œuvre et sans que par ailleurs l'immense richesse poétique et émotionnelle de l'œuvre n'en pâtisse.
À vous écouter, je trouve qu'il y a quelque chose en effet qui se rejoint dans ce que décrivait Alfred Brendel sur l'opération des mots. C'est-à-dire à la fois, il dit « ça m'intéresse que quelqu'un qui connaît la musique, qui interprète la musique, la pense, et envie de la penser, et goût pour cela, prenne la plume et puisse écrire. » Et alors, non seulement vous écrivez, mais on vous entend là aussi, Anne Kefleck, vous en parlez. Et tout à l'heure, vous disiez « qu'est-ce que c'est que cette opération que l'on essaie de faire avec les mots, après la musique, avant ou après la musique, qu'est-ce qu'on cherche à faire ?» Est-ce que vous dites que vous cherchez à vous rapprocher de ce qui est arrivé, à vous rapprocher de ce Es muss sein, à vous rapprocher de la musique qui a été écrite avant vous? Qu'est-ce qui se passe avec les mots qui fait que quand même vous le faites, quand même vous parlez, quand même vous écrivez?
Souvent je me dis non mais tais-toi, écoute et tais-toi. Parler est un besoin, disait Goethe, écouter est un art. Bon, alors écoute et let it be, et laisse-la, ne cherche pas indéfiniment. Mais c'est un peu comme les enfants avec... je ne sais pas si on a une boîte et il y a quelque chose dedans et on la secoue dans tous les sens et on voudrait savoir ce qu'il y a dedans. On est devant un mystère et il y a cette tentation absurde de est-ce que je peux arriver à comprendre ce qui se passe? Et alors qu'en fin de compte, parfois il faut vraiment tout simplement s'abandonner et laisser ce mystère se vivre. D'ailleurs, heureusement, c'est ce qui se passe.
Oui, d'ailleurs, parce qu'on peut très bien, ayant cherché, ayant emprunté ce chemin de la recherche, arriver à l'évidence qu'il faut laisser arriver. Mais ce n'est pas un chemin inintéressant. Brendel disait dans cette archive, ça m'intéresse de clarifier ma pensée en faisant ça.
Oui, oui.
Et ça a peut-être un impact sur la musique qu'on fait.
Oui. Et puis, on est tellement intrigués par... parce qu'on c'est comme peut-être aussi quand on est en l'état amoureux, c'est quand même extraordinairement mystérieux ce qui se passe en soi, ces ouvertures tout à coup et ce regard sur le monde, sur la vie, sur le temps, tout est perçu sous un autre angle et c'est vrai qu'on on a envie de clarifier, c'est vrai, mais bon, peut-être qu'il faut aussi accepter que la clarté, c'est ce qui se passe vraiment, c'est ce qu'offre aussi la musique. Tout à coup, il y a cette espèce je reviens à la puissance de Beethoven à la fin, il y a une décantation qui se fait intérieurement et où tout à coup c'est simple. On se dit, ah oui, je suis à ma place dans l'univers et c'est bien que ce soit ainsi. Et c'est à ce moment-là, ça va, c'est juste que je sois là. Et là encore une fois, on se le dit pas forcément avec des mots, mais on sent cette espèce d'adhésion à l'instant complètement et acceptation. Et bon, peut-être c'est une forme de gratitude aussi qui s'exprime à ce moment-là, parce que on parle tellement à notre époque de la quête de sens, chercher un sens, donner un sens. Et à travers, je trouve, la musique, il y a vraiment, qui est à la fois question et réponse, et c'est le seul moyen de trouver le sens. Et évidemment qu'il n'y a pas de réponse, et il n'y a pas de réponse claire et nette au sens de la vie, évidemment. Et peut-être tant mieux, parce que là encore, l'art est là pour aussi, nous ouvrir justement cette porte et approcher ce sens à travers aussi la beauté. Donc, il faut que je m'arrête. Faites-moi taire.
Allez, on a des archives pour ça. On va écouter Martial Solal.
Mon début de chaque travail du matin, c'est la méthode d'Anon que je joue en si majeur.
Ben oui,
je ne sais pas si ça plairait à Joachim Kuhn, mais je la joue en si majeur de la main gauche pendant que j'improvise. C'est-à-dire que je joue strictement n'importe quoi de la main droite, volontairement. Je joue quelque chose qui ne va pas du tout avec la main gauche. Je joue une autre, dans une autre tonalité, dans un autre tempo. Je fais strictement n'importe quoi. Il m'arrive aussi de lire des romans en même temps. Je fais quelque chose pour travailler sans m'ennuyer. Parce que le travail, je vous dirais, ça me paraît une chose assez ennuyeuse. Le vrai travail technique. C'est pas une partie de plaisir du tout. Sauf que le progrès est là pour vous récompenser après, mais pendant le travail, c'est pas du tout amusant. Alors, avec mon système qui consiste à improviser d'une main et travailler de l'autre, ça n'est qu'une partie de mon travail, évidemment.
Et vous avez beaucoup travaillé votre piano dans votre vie,
j'imagine. J'ai beaucoup pour apprendre, tout simplement. Ouais. Pas de mérite, tous les pianistes travaillent. Hein. Ceux qui sont vraiment des pianistes ont travaillé beaucoup. Les pianistes doués qui ne travaillent pas, c'est dans les légendes, ça. Dans la réalité, il faut passer par les calmes, les arpèges, les doubles notes, les poignets, enfin tout, quoi.
France Culture. Par les temps qui courent, Marie Richeux avec Anne Kefelec.
C'est John Cage qui parle juste après Martial Solal. C'était une archive de 2018 au micro d'Yvan Amar. J'aurais adoré, mais bon voilà, c'est comme ça, hein, qu'on ouvre le micro pendant que vous écoutiez Martial Solal parler, parce que vous n'arrêtiez pas de dire « Oui, c'est vrai ça, Martial. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Oui, moi aussi, je lis des trucs pour pas m'ennuyer, moi. » Pourquoi est-ce que ça vous intéresse tant qu'on rentre comme ça un petit peu dans la cuisine Anne Kefelec de ce travail quotidien dont Martial Solal dit qu'en réalité, il est ennuyeux, qu'il faut pas se raconter des histoires, c'est pénible parfois.
Ah oui, c'est pénible parfois. Oui, oui. Il faut raboter, il faut être à l'établi, il faut s'écorcher les mains. Et en effet, on est dans le concret. Là, c'est vrai. Et ça fait du bien d'entendre une parole aussi claire et nette. Nous avons beaucoup parlé de la dimension immatérielle de la musique et qui donne à rêver. Mais il faut retrousser ses manches avant et il y a des empoignades qui sont en effet lassantes. Moi, je me souviens d'avoir travaillé par exemple des études de Chopin en répétant, parce qu'il faut vraiment établir dans le cerveau les connexions physiques qui vont faire que le geste sera enregistré par le corps à force d'être entraîné, parce qu'il n'y a rien à faire. C'est aussi, il y a un côté sportif là-dedans. Il faut réaliser avec ses mains physiquement des gestes à une certaine vitesse qu'il faut ensuite pouvoir appuyer sur le bouton et puis ça passe, ça se déclenche. Et je travaillais des études de Chopin comme ça en répétant parce que il n'y a rien à faire, et on ne peut pas faire l'économie de ça en lisant Les Frères Karamazov, je me souviens. Et donc, c'était pas
posé
forcément
sur le piano. Comment vous faites ?
Oui, c'était difficile parce que c'était la Pléiade, alors j'ai bloqué les pages, en effet, le livre avait tendance un peu à se fermer, enfin c'était bon. Mais j'étais trop... Je me disais que j'avais pas besoin de m'engager totalement avec ma conscience pour, en effet, ce travail de répétition.
Mais bon, chez Dostoïevski un peu quand même, non ?
Et j'étais peut-être plus, à ce moment-là, branchée sur Dostoïevski, oui, c'est vrai. entre parenthèses, ça m'étonnerait beaucoup. Je n'ai pas osé avouer ce péché à Brendel. Je ne pense pas que lui, il travaille comme ça. À mon avis, il est concentré non-stop. Mais faudra que je lui pose la question. Parce que c'est vrai qu'il y a... C'est bien pour ça que les voisins ne veulent pas de pianiste à côté d'eux, qu'on a tellement de soucis à trouver un lieu pour habiter, pour les pianistes en particulier. On est fuit. On nous fuit.
Comment faites-vous, sans nous raconter votre vie quotidienne?
J'habite dans une maison et j'ai pas de voisins. Et autrefois, j'avais... Alors, une fois, ça m'est arrivé d'avoir des voisins qui supportaient et qui m'ont même dit, quand j'ai déménagé, on va vous regretter. Alors, j'en aurais pleuré. Je dis, si vous saviez comme ces mots me touchent et comme on aimerait entendre ça plus souvent. Donc, là, c'était un peu particulier. Ils étaient peut-être un peu masochistes, en tout cas. Mais
parce que quoi? Très répétitif? Oui. Parfois très heurté,
avec des rythmes où on déforme un peu le texte pour quand il y a des passages très techniques. Vraiment, c'est du métier. Encore une fois, comme les jongleurs qui je sais pas, du cirque de Pékin, qui vont envoyer 56 balles en l'air et ils vont indéfiniment refaire le geste pour arriver à la perfection et qu'après ça soit complètement automatisé. Alors, évidemment, dans la musique, c'est quand même d'un autre ordre, parce que le texte musical, c'est pas de la pure jonglerie. Ça n'est pas qu'une performance physique, mais il y a incontestablement une dimension physique qui est nécessaire pour acquérir la maîtrise d'un instrument. Vous pouvez vous devenir un comédien à 20 ans. Parce que vous pouvez apprendre un texte. Vous pouvez même peut-être devenir chanteur, mais vous ne pouvez pas devenir violoniste ou pianiste en partant de zéro à 20 ans. C'est impossible. Parce que ça nécessite, encore une fois, cette espèce de ressassement physique dans le corps, dans le cerveau, et établir ces rapports, ces connexions qui vont faire que l'outil sera prêt et que le corps a compris, a enregistré ces automatismes-là.
Quitte à tordre un peu ce qu'on entendait dans la voix de Martial Solal, exécutant à la main gauche une partition, dit-il, faisant n'importe quoi, improvisant à la main droite. On sent bien qu'il y a un truc dans le cerveau qui, moi, me fait grincer, quoi. Je me dis, mais il faut vraiment... C'est une gymnastique forte, quand même.
Alors, Glenn Gould poussait le bouchon encore plus loin, parce que là, mais alors là, je trouve que ça va pas. Il était capable de travailler une œuvre donnée et puis en écouter une autre avec un casque. Donc, dissocier complètement son oreille physique de ce que faisaient ses doigts. Alors, est-ce qu'il arrivait à superposer dans sa tête les deux plans? Sans doute, il devait avoir un cerveau organisé d'une façon tellement spéciale, mais là, je trouve que, en revanche, se couper, enfin, débrancher complètement son oreille physique de ce qu'on est en train de jouer avec ses mains, ça, je ne serais pas pour. Alors maintenant, il faut dire, ce type de travail, maintenant je ne lis plus quand je travaille. C'était vraiment dans ma prime jeunesse. C'est fini ça, parce que à la rigueur, je peux lire un journal en faisant quelques exercices, mais pas une œuvre. Dans l'œuvre donnée, même s'il y a des passages qu'il faut répéter, et ça peut être un peu lassant. Néanmoins, là, je ne le fais plus, non, c'est vrai.
Mais par contre, vous lisez le texte musical, vous lisez la partition.
Ah, bien sûr. Ah, bah oui, bien sûr.
On va écouter la K332, l'Adagio, et je vous laisse nous dire, Anne Kefelec, quand on revient.
D'accord.
Thank you.
Qu'avez-vous dessiné dans les airs, Anne Kefelek, à la fin
de cet adagio? J'ai dessiné le geste « Auf Wiedersehen » quand Mozart, ça fait partie de ce qui m'émeut tellement dans sa musique, la façon dont il nous quitte, la façon dont il s'en va. Et parfois, il a comme une espèce de retour sur lui-même, il revient et on croit que c'est fini, et puis il y a encore, il ajoute quelques mesures, et comme quelqu'un qui se retourne et qui vous dit, justement, ça j'aime cette notion en allemand, Lebewohl, qui veut dire, nous traduisons adieu, mais ça veut dire vis bien, et c'est une belle manière de se quitter, donc il nous dit vis bien. Et là encore, je pense aussi à Rilke face à Michel-Ange, une belle sculpture de Michel-Ange, et il a la sensation que cette sculpture lui dit, change ta vie. Et je trouve que cette confrontation et cette cohabitation avec la beauté de ses œuvres en musique à travers un métier comme le mien, il y a aussi un peu cette demande. Quand on est face à une beauté comme ça, achevée par un être humain, donc nous sommes de la même espèce, il met la barre très haut, Mozart, mais je veux pas dire qu'il n'est pas en train de me dire tu peux en faire autant, évidemment, non, on peut pas créer si on n'a pas de génie, mais il y a quand même une espèce d'appel à ce dépassement-là. Ça y est, je suis repartie dans les grands mots.
Non, mais c'est une demande très exigeante, finalement, oui. Cette demande-là. Oui. Qu'elle soit « change ta vie » ou « vis bien » ou même « au revoir ». « Au revoir » est une demande presque exigeante aussi. Ça me fait penser à Anne Kefelek, au début de notre entretien où on parlait du chemin à rebours que vous avez choisi, la 333, la 332, la 331. C'est une sorte de manière de regarder en se retournant.
Oui, oui. Peut-être je suis à ce moment de ma vie aussi où je me retourne un peu plus souvent qu'autrefois.
Et c'est un moment agréable ?
C'est un moment qui est beau, oui. Vous rappelez peut-être, je ne sais plus qui disait ça, Nizan, quoi, qu'il disait que 20 ans, une fois, il ne supportait pas qu'on dise que c'était le plus bel âge de la vie. Bon, ça peut être un âge absolument merveilleux. Mais en tout cas, pour quelqu'un comme moi, d'avoir eu la chance d'avancer sur cette route de la musique, je pense que je la vis mieux maintenant qu'à 20 ans, oui. Plus pleinement et en acceptant davantage aussi mes limites. À 20 ans, il y avait des moments où tout s'était déroulé pour moi d'une façon relativement facile dans le parcours même des études au conservatoire, les concours internationaux, l'enregistrement de mon premier disque. Et parfois, je me disais, mais est-ce que je suis légitime là-dedans? Est-ce que vraiment, est-ce que la musique a besoin de moi? Et je trouvais que non, la musique n'avait pas forcément besoin de moi. Il y avait des merveilleux artistes, il y en avait beaucoup. Et qu'est-ce que je pouvais lui apporter? Et puis, j'ai réalisé au fil des ans que moi, j'avais besoin d'elle et que c'était comme ça qu'il fallait voir la chose. Il fallait retourner à la situation et que je m'étais constituée avec elle et qu'il fallait, vaille, que je m'étais patouille avec ça. Qui était en effet, change ta vie et puis débrouille-toi. Et puis,
avec ton âme incertaine et flottante.
Exactement. Et maintenant, je crois que je suis plus dans une forme de sérénité par rapport à ça. Et je pense que oui, j'ai beaucoup, beaucoup de chance.
Bonne nouvelle. Merci beaucoup, Anne Kefelek. Ces trois sonates donc pour piano sont parues chez Mira. Et puis je donne comme ça les quelques rendez-vous. Le 7 janvier à la salle Gaveau avec Amal Clun à 12h30. Fin janvier à la Folle Journée de Nantes. Et puis dans la région nantaise, début février, le 23 février, avec votre frère à la Scala à Paris.
De son, Guillaume Ledu. À la réalisation ce soir, Anna Holweck. Par les temps qui courent, c'est une équipe. Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Lucie Riandet, Marianne Chassor, Luke Vauvillier et Marie Richeux. Et moi, Hippolyte Janot, qui suis en troisième avec eux cette semaine. C'est aussi une page sur franceculture.fr et un podcast auquel vous pouvez vous abonner sur l'application Radio France. Il est bientôt 22h, donc à suivre le journal. Belle soirée sur France Culture.
Thank you.